éventuels. Eh ben t'as qu'à écouter libre.
Este espectáculo es El Jabalí. Nous sommes la compagnie de théâtre de rue, La Patriotico, interesante.
Nos fuimos con El Jabalí.
La Patriotico, interesante. C'est une compagnie de théâtre de rue chilien.
Ignacio Achura, directeur et comédien.
Nous travaillons depuis 5 années. Nous travaillons beaucoup sur les quartiers marginalités de Chili, parce qu'il y a beaucoup, dans toute la périphérie de la grande ville de Santiago. Et voilà, nous faisons un théâtre populaire qui parle beaucoup de la réalité sociale, politique, économique de Chili, de l'Amérique latine aussi. La compagnie, nous sommes 4 comédiens, et moi que je suis comédien et directeur, 3 musiciens, 3 dessinateurs qui font tous les costumes, la scénographie, les décors. Une productrice et un type qui fait c'est le technicien de son et travaille sur les sites web aussi. Sommes 10 les total.
La compagnie est venue en France avec une pièce, El Jabalí, le sanglier, une adaptation très libre de la pièce de Shakespeare, Richard III. Une pièce en forme de miroir déformant sur nous et nos gouvernants. Ignacio Achura.
Nous prenons la histoire de Richard III et un peu la figure principale que c'est Richard III, le grand dictateur. C'est un peu un paradigme des dictateurs sanguinaires. Nous prenons un point de début un peu différent à la pièce classique de Shakespeare. Nous cherchons de trouver un peu les causes, l'origine de la tête sanguinaire de Richard III. Et pour nous, il y a un antécédent super important dans les pièces originales de Shakespeare qui dit que la première motivation de Richard III pour faire toutes les choses terribles qu'il fait, c'est la discrimination qu'il lui vit depuis enfant de sa mère. C'est super spécial pour nous parce que c'est une petite motivation à vue de tout le monde, mais c'est le moteur principal qui mouve la volonté sanguinaire de Richard III. Et finalement, pour nous, cet antécédent, on dit que le contexte affectif, le contexte social, c'est finalement l'origine de les schémas sanguinaires de Richard III. Et voilà, c'est la société, finalement, qui a créé les dictateurs, et c'est la population. C'est notre message, notre discours avec cet spectacle.
Les rois, votre enfant respire malgré sa maladie. Oh. Aux quatre coins du pays, on entend notre nom. York, York. Nos soldats se divertissent.
Je crois que c'est très intéressant de parler un peu de comment les mêmes populations qui choisissent un gouverneur, qui finalement c'est la responsable de que ce gouverneur ait le pouvoir. À la fin, c'est la même société qui dit « Oh, c'est pas possible, c'est un sanguinaire, parce qu'il fait la guerre sur l'Afrique, sur l'Asie. » Voilà. George Bush, c'est le président que la majorité des gens de l'État-Unis a choisi. Tony Blair aussi, et voilà, Sarkozy aussi. Est-ce que c'est important de voir qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Voilà, sont les types avec plus pouvoir du monde. J'ai une grande différence avec beaucoup de gens qui pensent que les classiques, ils ne parlent pas de la réalité quotidienne. Je crois que Shakespeare, il parle beaucoup de la réalité. De la réalité de maintenant, à présent, c'est très actuel. Et voilà, nous voulons parler de notre réalité, de la réalité de Chili, de l'Amérique latine, mais de la réalité de tout le monde, comme nous regardons la réalité du monde.
Et en faisant du théâtre, même pour le théâtre,
nous faisons un grand mélange entre la tradition du théâtre populaire latino-américain, de la tradition de carnaval, et catholique aussi, et avec une tradition de théâtre de rue et populaire de l'Europe, avec tous les théâtres de masques de l'Italie, bon, et avant de la Grèce, de la Rome. Et voilà, la France aussi, Jacques Lecoq, c'est un super important référent qui travaille sur les masques, tous les styles populaires du théâtre, les clowns aussi, les cabarets, les cirques. Je crois que notre style, c'est un grand mélange, c'est pas une chose très déterminée. Pour nous, le plus important, c'est relater une histoire.
No, s'il te plaît.
¿Cómo que
Richard?
Es para mi hermano y yo no quiero que se vaya a perder.
Ah, bon, voilà, c'est pour ton frère, mais...
No. Ya, vos te fuiste.
La Patriotico Interessante, un nom étrange qui claque comme un slogan. Adrián Díaz, comédien, revient sur ce mariage de mots.
Este nombre viene por una búsqueda de encontrar un teatro más representativo de nuestra cultura chilena. Por eso lo patriótico.
Ce nom vient d'une recherche pour trouver enfin un théâtre plus représentatif de notre culture chilienne. Le terme patriótico vient de là. Interessante, c'est le nom qui signifie que nous voudrions que les gens s'intéressent à ce théâtre.
Tiene que ver con la valoración de los estilos teatrales que sentimos están más ligados a nuestro país.
C'est donc une valorisation de notre travail afin que les gens le valorisent eux aussi. Ça concerne la mise en valeur des styles théâtraux les plus en phase avec notre pays et avec ses besoins. Je pense ici au théâtre de rue, à la sauvegarde du folklore national et aussi du folklore latino-américain en général. Tant au niveau de la musique que des coutumes, des carnavals, des costumes, la façon de faire la fête en Amérique latine.
RCF Rivage avec la compagnie chilienne de théâtre de rue La Patriotico Interessante. Le théâtre est un art visuel autant qu'oral. Comment transposer une pièce dans un pays qui parle une autre langue? C'est la question que s'est posée la compagnie La Patriotico Interessante en emmenant sa pièce El Jabalí sur les routes de Bretagne. Adrián Díaz, l'un des comédiens.
Cette version est très proche de l'autre, mais elle comprend quelques changements pour que le public puisse mieux comprendre. Nous y avons intégré des panneaux au début de chaque scène et chaque spectateur aura un livret avec un petit texte pour présenter les scènes.
La información de las escenas para que la gente pueda verlas en español.
Comme ça, les gens voient la pièce en espagnol, mais comprennent ce qu'il se passe en gros. Et nous intégrons aussi, petit à petit, des parties de texte en français.
Non !
D'hermanos, señores, amor de hermanos.
Aquí está mi mano, querido amigo. Olvidaré todas nuestras diferencias.
Lo mismo digo a ti, estimada reina.
¡Ay, maravilloso!
Nos interesó hacer esta obra en particular porque nosotros...
Ça nous intéressait de travailler sur cette pièce en particulier parce que nous avions le sentiment d'avoir eu un Richard III dans notre pays aussi. Le dictateur Pinochet, du coup, le thème nous touchait directement. Mais ce n'était pas seulement pour parler de Pinochet ou d'un thème ancien. Nous ressentions la nécessité de parler pas seulement des dictateurs mais aussi de la classe politique et plus encore du message de cette adaptation. La responsabilité sociale est la chose la plus importante. La responsabilité du peuple qui élit ses gouvernants. Comment il fait attention à ceux qui le gouvernent? C'est ce qui nous amène à reconnaître encore l'importance de la démocratie et aussi de la participation citoyenne du peuple active face aux gens du pouvoir. Ça nous a paru également intéressant de parler de cela. Nous l'avons retrouvé dans le texte de Richard III. Il y a autre chose qui nous a intéressé dans Shakespeare. C'est un auteur difficile. Nous nous sommes donc imposés comme défi de raconter cette histoire de façon beaucoup plus simple pour qu'une personne vivant dans les quartiers défavorisés de Santiago puisse aussi voir du Shakespeare parce qu'ils n'iront jamais au théâtre voir une pièce classique. Alors nous allons montrer cette pièce adaptée dans les quartiers.
Y la historia es muy complicada. Nosotros la simplificamos y conservamos la esencia del mensaje y también lo volvemos un poco más político también.
Le texte est très long, il dure 3 heures et l'histoire est très compliquée. Nous l'avons donc simplifié en conservant l'essence du message et en le rendant un peu plus politique aussi. Nous avons toujours eu beaucoup d'activités dans les quartiers défavorisés. Nous sentons que c'est là que se trouve le public qui nous correspond le mieux, celui pour qui nous pensons nos pièces. C'est aussi le cas dans les autres régions du pays, et pas seulement à Santiago, la capitale, mais il y a là ce public qui nous attire énormément et qui a besoin de voir ce genre de choses. Nous pensons que c'est là aussi que sont gardées les racines les plus chiliennes, les moins européanisées, les moins américanisées. On y trouve les racines, le cœur du Chili.
Existe-t-il une façon de faire du théâtre propre à l'Amérique latine? Sans doute, au moins dans l'apport de musiciens jouant directement sur la scène, mêlés aux comédiens sans l'être tout à fait. Une musique résolument rock, c'est ce que nous explique l'un des musiciens, Rodrigo Bastidas.
El recurso rock en el jabalí lo usamos para enfatizar el poder.
Normalement, les gens font l'association du rock avec la violence. C'est les choses dures du rock. Mais nous voulons faire l'association ici avec les pouvoirs. Et le rock travaille sur les spectacles à renforcer les personnages de Richard III comme la figure du pouvoir, de la force aussi.
C'est assez inhabituel, je ne sais pas si ça se pratique beaucoup par ailleurs, d'avoir un groupe complet de rock intégré directement dans une troupe de théâtre. Alors comment est-ce que vous percevez ce travail quand vous avez commencé là-dedans, comment ça s'est passé?
A mí lo que más me gusta es el proceso, en lo que más disfruto el proceso montaje. Empiezan a crear las plantas de movimiento, cómo empiezan a nacer los personajes.
J'adore les process de création. Pour nous, les musiciens, c'est très intéressant de voir.
Bonjour, je suis Gwenaëlle Plombec et je fais écouter la Radio Rue Libre quand je fais mes séances de manicure personnalisées. Parce qu'elles sont tellement connes que de toute façon, elles comprennent rien du tout. Alors, Radio Rue Libre, quoi.
Bah moi, je suis prof d'anglais et des fois, j'ai tellement mal à la tête après la journée que j'écoute Radio Rue Libre. Voilà, c'est tout.
Moi, je suis jeune et puis j'entends dire que Radio Rue Libre, c'était une radio pour les jeunes.
Como un papeta buceneza nado, de un coseneza nado, la venta plurado. Como un papeta buceneza nado, la venta plurado, soy perdido, sem un papet.
Como un papeta buceneza nado, de un coseneza nado, la venta plurado.
Como un papet.
Pa mai de rumegado, pa mai de rumega, ca de bestiale staple. Om un papet, pa mai de rumega, ca de bestiale staple, de laborio de busies.
Om un papet, a busceneza nado, in casceneza nado, la venta plurado.
Om un papet.
Pa mai de patanos, pa mai de patanos, pa mai de bumbi.
Om
un papet, pa mai de patanos, pa mai de bumbi. Al fresco al fum de la cavo.
Om un papet, a busceneza nado, in casceneza nado, la venta plurado. Om un papet, a busceneza nado, la venta plurado, soy perdice un papet.
Om un papet, así es nuestro terro, así es nuestro tero, e per cumo e sero. Om un papeta, si es nuestro tero, e per cumo e sero, per tu paro d'un trabal.
Om un papeta, busceneza nado, di un casceneza nado, la venta plurado.
Om un papeta,
busceneza nado,
poeta mu se ne è andato, di un cop se ne è andato, la venta amplurato. Come un papeta mu se ne è andato, la venta amplurato, sui perdi se mu papè. Come un papeta mu se ne è andato, di un cop se ne è andato, la venta amplurato. Come un papeta mu se ne è andato, la venta amplurato, sui perdi se mu papè. Perdu, c'est mon papet.
Bombe de balle sur Radio Rully. Bombe de balle qui est une formation qu'on peut considérer presque de rue. C'est des gens qui jouent dans la rue, au marché. C'est la tradition, hein, Saint-Cernin. Vous voyez, fait mouster un petit peu tout ça. On est à Toulouse avec ces petites nanas et ces garçons qui enchantent nos oreilles avec ce morceau au Mon Papet tiré de leur dernier album. Radio Rue Libre, c'est pas seulement des fichiers qui s'enchaînent. C'est aussi des vrais animateurs, monsieur
Rah. Eh ben oui, des vrais animateurs
qui sont debout.
Qui sont debout, qui sont pas forcément tout droit, mais qui compte bien en tout cas être debout jusqu'à minuit ce soir pour vous faire du direct et puis à notre façon aller aussi au contact de tout ce qui se passe aux quatre coins de la France, aux 18 000 coins de la France. Eh bien, les activistes de la rue s'agitent aujourd'hui et chacun à sa mesure et dans son réseau essaye de faire résonner au maximum ce qui fait les caractéristiques de la rue. Qui sont la générosité, l'instantanéité, la rencontre, la joie d'être dans l'instant présent. Et nous sommes à votre service ici à Radio Rue Libre, sur cette web radio, pour relayer au maximum les informations et pour essayer de relayer également cet enthousiasme qu'on sent déjà. On va en avoir un bon bout de cet enthousiasme par la voix de Thierry Laurent, le président de la Fédé, qui dans quelques secondes maintenant va s'exprimer et va expliquer un peu sa vision des arts de la rue et des enjeux aujourd'hui.
Et de ces trois années autour des arts de la rue, avec voilà. Le comité de pilotage, le gouvernement, tout ça, qui on est, où est-ce qu'on va, et comment est-ce qu'on peut parler finalement avec les collectivités locales, quelque chose d'assez sérieux. Il y a eu du boulot de fait, c'est pas seulement des gens qui font ouin-ouin dans la rue, les théâtreux de rue, non. Il n'y a pas que ça.
Alors pour vous, pour nous contacter et caler un rendez-vous téléphonique pour nous expliquer et pour expliquer aux auditeurs, aux web auditeurs et aux radio auditeurs également, parce que nous sommes relayés par des radios partenaires. Et ben pour nous dire ce que vous faites et pour faire circuler la bonne énergie de votre coin et recevoir celle des autres, ben contactez-nous. Le standard de la web radio vous est ouvert, le 02 98 46 19 46. Belinda attend tous vos appels au 02 98 46 19 46. Vous pouvez nous envoyer des mails également. Ça c'est le site. Le mail c'est direct@rulibre.fr. direct@rulibre.fr. Et puis comme ça, c'est une énergie qui entraîne de l'énergie, qui entraîne de l'énergie, qui entraîne de l'énergie. C'est une spirale positive dont nous essayons de nous faire l'écho.
Ah, il va y avoir plein de rendez-vous dans la journée. Avant de retrouver donc maintenant Thierry Laurent, président de la Fédération des Arts de la Rue, on va s'écouter un petit morceau. Mais je crois que Ch'tou va intervenir. Il a levé le doigt.
Oui, tout à fait, parce qu'on a quelque chose d'exceptionnel là quand même qui nous est arrivé comme dépêche là, quelque chose de vraiment exceptionnel.
Vous voulez dire un
mail ? En fait non, on nous a transmis une lettre donc qui est signée par le préfet du Finistère. Alors attention, hein, parce qu'il s'agit donc de l'État qui prend en considération cette journée du 27 octobre. Et pas qu'un peu, parce qu'on sait que cet après-midi, n'est-ce pas, il va y avoir un rendez-vous et de 15h à 18h, une émission qui s'appelle Faites Place, et on va retrouver Fred Touche en direct pour le soulèvement de l'hôtel de ville à Brest. Eh bien, monsieur le préfet du Finistère, et c'est très sérieux, a signé ce courrier que je vous lis. Objet, décharge de responsabilité, dossier suivi par l'administration en puissance. Je sous-signais Gontier Friederici, préfet du Finistère, tiens à décharger de toute responsabilité monsieur Jean-Claude Fischer, eut égard au risque qu'il pourrait faire encourir, de par la performance, certes improbable mais nonobstant réalisable, qui fait l'objet de sa présence en Finistère, à savoir, premièrement, soulever l'hôtel de ville de Brest à une hauteur de 2 mètres de haut, faire pivoter le bâtiment d'un quart de tour vers la gauche puis d'un quart de tour vers la droite et le reposer exactement à son emplacement d'origine. Deuxièmement, pousser des immeubles de la rue de Siam et certains bâtiments publics afin de donner toujours plus de place à l'espace public et au théâtre de rue. Troisièmement, soulever la Bretagne entière à 17h33 précise. Donc, à la condition impérative qu'il prenne les précautions suivantes, il veillera, afin de ne pas provoquer des dégâts majeurs comme une fracture de la pointe du rat, à la lever simultanément à Morlaix, Pornichet, Moncontour, Brons, Port-Louis, Plouganou, Concarneau, Carhaix, Saint-Nolf, Rennes et Lampol-Ploirzel, en la calant soigneusement avec des coquilles d'huîtres. Pour faire valoir ce que de droit, à l'occasion de la Journée nationale des arts de la rue, Gontier Friederici, préfet du Finistère.
Alors c'est un document qui n'est pas encore signé, Claude, qui est en cours de négociation pour les signatures. On sait que les institutionnels tiennent à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art et tiennent à accompagner les arts de la rue dans leur sérieux et dans leur développement. Et ce document en est vraiment la preuve.
Non mais ça, c'est authentique hein, ce que vous venez de nous dire.
C'est totalement authentique.
On aura d'ailleurs un reportage téléphonique puisque la signature du document et le discours du préfet seront relayés évidemment par Radio Rue Libre et on sera au plus près de l'information à ce moment très très crucial et la signature de ce document historique.
Avant d'envoyer la suite donc des sujets notamment proposés par Radio Rue Libre, j'ai envie de vous faire écouter un morceau qui commence par rue. C'est rue de Paname, ça vous dit quelque chose? Dans une rue de Paname,
dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là deux trois femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie et la folie. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, fous des amants, il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie, la joie et l'anarchie, la joie dans Paris.
Le slogan « Rue libre ». Le principe, réinvestir l'espace public en lui rendant sa fonction première, un lieu d'échange citoyen, de rencontre et de communion de la population. Qui de mieux placé que les artistes des arts de la rue pour faire fonctionner ce lien perdu ? Qui de mieux équipé pour tendre à travers la place publique un filin solide et pérenne sur lequel s'exerceront à funambuler les citoyens ? À travers une journée d'action nationale le 27 octobre, c'est aussi tout un secteur artistique qui va faire entendre sa voix. Les arts de la rue ont l'habitude de se montrer, mais qui peut pourtant prétendre les connaître ? Avec plus de 1000 compagnies recensées aujourd'hui en France, c'est pourtant un secteur plus que vivace. Thierry Laurent, le président de la Fédération nationale des arts de la rue, va donc nous guider vers la connaissance tout au long de cette émission spéciale, afin de nous éclairer sur ce secteur, ses spécificités, ses valeurs et ses problématiques. Une émission réalisée à Canal B à Rennes avec Paco, Steve, une radio Ferrarock.
Bonjour.
Bonjour Paco.
Bonjour.
Bonjour Thierry. Nous sommes donc avec Thierry Laurent, le président de la Fédération des arts de la rue. Merci de t'être déplacé jusqu'à Rennes pour cette émission spéciale où tu vas nous parler des arts de la rue, donc puisque tu en es le digne représentant aujourd'hui. Comment est-ce que tu en es arrivé à devenir président de cette grande fédération ?
C'est un mouvement démocratique, il y a des élections, voilà, c'est tout nouveau, du mois d'avril. Et j'ai été élu par le conseil d'administration.
D'accord.
Là, on peut paraître insolent, mais on a le respect de la démocratie.
Donc toi, tu as un parcours artistique derrière toi, tu fais partie de ce mouvement qu'on appelle le mouvement des arts de la rue ?
Oui, j'ai commencé depuis le départ à raconter des histoires dans la rue, tout en racontant aussi des histoires dans les salles. Mais c'est vrai que la rue est pour moi prépondérante dans mon activité d'acteur, de metteur en scène, y compris de pédagogue.
Alors cette fameuse fédération, elle réunit aujourd'hui, je crois, à peu près 200 compagnies de théâtre de rue en France.
Voilà, on pourrait dire ça, oui.
Alors d'ailleurs, je dis théâtre de rue, mais on ne dit pas théâtre de rue, on dit les arts de la rue.
Les arts de la rue, voilà, oui. C'est beaucoup plus large. Alors sur la création de cette fédération, elle date de 91. Il y a la guerre du Golfe, et là, interdiction de jouer dans l'espace public, hein, Vigipirate. Et là, eh bien, on annule tous les spectacles, toutes les tournées, c'est impossible. Et là, les artistes de rue sont réunis, puisqu'on avait de jolis calendriers, dispositifs Vigipirate, eh bien, tout est annulé, et on décide donc de réunir un collectif qui va s'appeler le collectif 91, où on va voir le ministère en disant, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a des équipes, on a des employés, il faut qu'on arrive à manger. Alors, la demande des copains de l'époque, hein, dont les compagnies Opposito, Générique Vapeur, Transexpress, Délice Dada, ont été voir le ministère en disant, nous aussi, on veut être inspecté, on veut être comme tous les autres, il y a des inspecteurs pour le théâtre, eh bien, venez nous inspecter. Et il y a une première démarche, il y a un premier inspecteur qui est venu, mais qui n'a pas bien compris l'utilité, la fonction, comment on intervenait dans l'espace public, qu'est-ce qu'on voulait raconter comme histoire à la population. Il n'a pas fait l'affaire, et donc il y a un deuxième inspecteur qui a été nommé, qui est Yves Deschamps, et qui est le président du comité de pilotage des arts de la rue, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui lui a tout de suite compris, et il a fait le tour des compagnies, des structures, des lieux de fabrique, on les appelait à l'époque, des lieux de fabrique, donc il y a eu un tour de France d'organiser, et de 91 à 97, il y a eu la création de cette Fédération des Arts de la Rue, qui est toute jeune, puisque nous allons fêter cette année nos 10 ans sur la consolidation, la structuration de ce métier que sont les artistes de rue.
Donc c'est la fonction principale de la Fédération, c'est donc de parler au nom des artistes des Arts de la Rue, mais vous en avez d'autres aussi
Alors, c'est vrai que c'est ce qui est assez particulier, c'est que c'est pas uniquement des artistes. Il y a à la fois des artistes, il y a à la fois bien sûr des techniciens, mais il y a également des programmateurs. Ce que dirait Claude Morizur, le directeur, co-directeur du Fourdon avec Michel Bosseur, dit les passeurs, c'est-à-dire ceux qui font le lien entre les artistes et la population. Donc c'est vrai que la fédération, elle élargit un peu tous les acteurs qui veulent intervenir dans l'espace public. Il peut y avoir également des spectateurs, des urbanistes, des sociologues qui s'intéressent à cette vie citoyenne et sur le partage de l'espace public. Donc c'est assez large, et c'est vrai que c'est pour sensibiliser l'État, bien sûr, mais toutes les collectivités locales, départementales, régionales, à la spécificité de notre pratique artistique.
Alors, dans la pratique, justement, artistique des arts de la rue, on peut presque considérer, finalement, que l'espace, c'est un peu comme le troisième comédien, la troisième personne qui va jouer. Comment est-ce que vous arrivez à discuter, à dialoguer avec les collectivités, avec le ministère, pour leur dire, cet espace-là, c'est aussi un espace qui a besoin de vivre, et nous, on est là pour le faire vivre. Ça doit être assez compliqué à entendre. Tu parlais de la guerre du Golfe tout à l'heure, et de Vigipirate, c'est...
Alors en effet, parce que le théâtre est né dans la rue. Alors c'est vrai que maintenant on est sur les arts de la rue, parce que c'est plus large. Hein. On pourra parler de danse contemporaine, on pourra parler de multimédia,
d'installation,
bien sûr. Et on existe quand même depuis plus de 2500 ans. Hein. Si on vient sur toute l'histoire du théâtre, hein, on parle des mystères sacrés, des mystères grotesques du Moyen Âge. Donc nous existons depuis très très longtemps. Hein, l'interdiction qui était donnée aux arts de rue. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait affirmer ça, parce qu'il y a une demande de plus en plus large de la part des collectivités qui reste à 80% de nos partenaires essentiels. Et c'est vrai que les premières interventions du ministère datent à peu près de 94 avec Monsieur Toubon. Ça a été les premières interventions de soutien à la création et des lieux de fabrique. Donc c'est quand même relativement récent sur la nécessité de s'organiser. Vous savez que c'est un métier où il y a quand même des personnalités très fortes, des singularité très très forte, et comme on le voit d'ailleurs dans la vie associative, la vie syndicale et la vie politique, eh bien arriver à regrouper tous ces gens-là pour pouvoir avancer. Hein, et voilà, l'union fait la force, et c'est ce qui nous a permis d'arriver au temps des arts de la rue, mais c'est relativement récent.
Il y a eu aussi peut-être, je dirais, le succès des festivals comme Aurillac et Chalon.
Alors bien sûr, après il y a des vitrines phares qui ont été Aurillac, hein, Aurillac, Chalon, maintenant Sotteville, donc on jouait un rôle. Il y a 20 ans, les copains qui étaient, il y avait 500 spectateurs, hein, alors que maintenant, on en est à plus de 100 000 spectateurs. Donc, on voit comment ça a progressé. C'est vrai que d'année en année, le nombre d'année en année, hein, le nez, attention, eh bien, ça progresse concernant à la fois le nombre de compagnies et le nombre de propositions de festivals.
Et les retombées économiques qui découlent de ça, qui sont la conséquence de ce succès, qui peuvent commencer à interpeller aussi, je dirais, les mairies, les collectivités locales.
À la fois sur les retombées économiques, et à la fois aussi sur le partage du lien dans la ville. Comment on peut partager ce même espace qui doit appartenir à tout le monde et qui est parfois soit privé ou soit l'appartenance de petits groupes comme ça. Et c'est vrai qu'il faut redéfinir cette relation. Et c'est le souci de tous les artistes de rue, de ce partage en lien avec une population que Michel Crespin disait de public-population.
Tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus en parlant de théâtre de rue à la place de parler des arts de la rue. En même temps, le théâtre, c'est peut-être aussi ce qui vous a permis au tout début de commencer à dialoguer avec le ministère en vous identifiant d'abord au théâtre. Aujourd'hui, on dit art de la rue parce que c'est très transversal. Alors, tu parlais du fait qu'il y avait des techniciens, des sociologues, un paquet de gens qui tournaient autour. Mais il y a aussi cette fonction des arts de la rue qui est vraiment très très spécifique, de mixer à la fois de la comédie, du cirque, de la musique, de la vidéo, etc. Il y a une vraie transversalité qui décloisonne complètement finalement le secteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette spécificité des arts de la rue ?
Alors, c'est vrai que même si le théâtre actuellement, en termes de pourcentage, reste quand même la plus prépondérante par rapport à la musique, par rapport au multimédia, par rapport à la danse contemporaine. Mais c'est vrai qu'on est dans un souci d'innovation. Alors, bien sûr que nos amis artistes qui sont dans la salle ont ce souci-là. Mais c'est vrai que le périmètre, la surface, elle est tellement plus large, puisqu'on va, ici, on est dans un quartier populaire avec des HLM. Eh bien, comment on peut s'approprier, comment on va projeter, et c'est évident que la contrainte de l'espace nous oblige obligatoirement à innover et à faire en sorte qu'il y ait cette transversalité. La stratégie de la ville, mais au bon sens du terme, quoi, hein, c'est vrai que ça peut un peu guerrier, mais comment on peut communiquer avec, parfois même dans un théâtre, vous savez, on se pose tellement la question sur il y a une chaise, il y a un élément de décor, et où on va la mettre cette chaise, hein, c'est tellement important. Alors vous voyez un peu, à l'échelle de la ville, eh bien, il faut des outils, et à la fois on travaille sur l'infiniment petit, parce que des fois il y a des gens qui peuvent raconter des histoires dans des ascenseurs, et en même temps on peut aussi parler à la structure qu'est l'immeuble. Donc on est sur à la fois sur cette transversalité, sur des esthétiques complètement différentes, mais à la fois on est sur un rapport de proximité où on peut susurrer une poésie à quelqu'un au creux de l'oreille, et en même temps être dans la prouesse scénographique d'entourer un pont ou le personnage de la marionnette géante bien connu de tous.
C'est peut-être d'ailleurs une difficulté que vous avez avez rencontré, vous, en tant que fédération, enfin, en tant que gens qui cherchent à fédérer finalement des choses aussi différentes, aussi variées?
Alors, c'est vrai que pour l'instant, je vous avoue, on a des thématiques sur nos esthétiques, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop entre nous. C'est ce qui fait que, voilà, je crois qu'il y a un respect. Il y a un respect et on arrive à se parler. Voilà, je fais du multimédia, je fais du théâtre, je fais de la danse contemporaine, et il y a un trop grand respect. C'est ce qui nous sauve actuellement. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des discussions plus intimes, adossées au bar sur nos esthétiques, hein, sur ce qu'on veut dire. Mais c'est vrai qu'au sein de la fédération, on se réunit plutôt sur le partage que nous avons avec la population.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile.
Bah oui, c'est cet artiste qui propose comme ça quelques petits albums fort sympathiques, dont The Flying Club Cup, d'où j'ai tiré le petit morceau qu'on vient d'écouter.
Morceau qui s'appelait Nantes, et puis d'ailleurs ça me fait penser qu'à Nantes, c'est une ville qui reçoit beaucoup beaucoup de compagnies, dont le Royal de Luxe, qui est un petit peu issu de là-bas, avec ses éléphants géants et ses marionnettes géantes dont on parlait. Donc on est toujours avec Thierry Laurent, le président de la Fédération des Arts de la Rue, qui est là pour nous parler de la journée Rue Libre, mais pas que, des Arts de la Rue en général aussi. On se demande toujours, quand on voit comme ça des artistes évoluer dans l'espace urbain, déjà, comment ils font pour arriver là? On a tout le temps l'impression que les arts de la rue, c'est gratuit, que c'est juste pour le bonheur des yeux des spectateurs, mais ça se passe pas comme ça. C'est quoi l'économie de ce secteur, finalement?
Alors, c'est vrai que des fois, dans le terme, là, on parlait du jargon tout à l'heure, c'est vrai que donc, on préfère libre accès à la gratuité. Parce que libre accès, c'est-à-dire que quelqu'un qui finance derrière. Et c'est vrai que, actuellement, c'est vrai que les collectivités locales contribuent à 80%. Hein. Alors après, il y a des aides départementales, les conseils généraux, des régions, du ministère. Alors, d'où l'initiative du temps des arts de la rue, pour essayer un peu que ce soit un levier. Hein. Tu voulais me couper?
Juste, ouais, le temps des arts de la rue, donc c'est une initiative très à part de tout le reste qui réunit collectivités, ministères et vous, et des artistes.
Voilà, ça réunit, il y a eu un comité de pilotage qui ont réuni à la fois, puis il y a le téléphone, c'est Siggins Ren derrière, c'est ça, c'est merveilleux.
C'est le petit fond musical.
Ouais, c'est le mien, voilà.
Ah d'accord.
C'est la préparation du 27, c'est intensif.
Ça change, oui, j'imagine, on est en plein dedans là, donc voilà.
Il y a du boulot, on est en plein dedans. Il y avait eu l'année du cirque qui a duré un an. Donc la proposition, nous, un an, ben voilà, c'est peut-être pas suffisant un an. Hein. Et on a proposé 3 ans, le temps des arts de la rue, sachant que ben, ça a permis un levier de réflexion. Et dans ce comité de pilotage, il y avait des représentants du ministère de la Culture, des représentants des maires de France, représentants des régions, à la fois des techniciens, pour envisager un certain nombre de préconisations. Et ça a été un levier, puisqu'on était à 6,5 millions d'euros il y a 3 ans, et là on est passé à 10 millions sur l'apport du ministère. Mais parce en même temps...
Vous êtes passé dans le patrimoine,
ouais,
c'est
bah non.
Bravo.
Alors 10 millions, il y a encore beaucoup à faire, hein, puisque c'est pas encore suffisant. Des fois,
oui,
c'est des structures.
C'est très peu,
hein,
même.
Hein, c'est très peu. Ça peut être une structure pour un grand théâtre national ou pour un musée. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts, mais ça a été un levier de réflexion, et y compris on jouait le jeu à certaines de régions.
La meilleure façon,
et
la plus courte.
Et c'était aussi une mise en lumière. Ça a permis de faire de la pédagogie sur qui nous étions, que faisions-nous, que faisons-nous réellement. Donc ça a été un levier de réflexion, de pédagogie, et bien sûr, il y a une petite avancée au niveau financier, mais tout reste à faire. C'est pour ça que le 27 est un point d'orgue, c'est pas le moment final. La rue est à tout le monde et il faut continuer à y voyager à l'intérieur.
Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui particulièrement, j'ai envie de dire, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est pas encore plus difficile pour vous de revendiquer ce fait que la rue est à tout le monde et l'espace public est à tout le monde? On est quand même dans une société, je voyais dans votre édito de rue libre, c'est circulé, il n'y a rien à voir, quoi. Il n'y a plus le droit de s'arrêter, il faut pas qu'on soit trop nombreux, on ne peut pas montrer tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça de verrous qui sont mis. Est-ce que pour vous, du coup, ça change la façon de s'exprimer déjà, et ça change aussi le rapport que vous pouvez avoir avec...
Alors c'est vrai qu'il faut faire attention à un certain nombre de contraintes techniques. C'est vrai que par exemple sur Paris, c'est très difficile. On peut accepter les manifestations, parce que c'est dans le cadre des droits de l'homme, une manifestation pour un événement artistique, et bien l'autorisation de la préfecture est beaucoup plus délicate. C'est pour ça que ça a aussi une valeur, le fait que les artistes parisiens seront devant l'hôtel de ville, car il y a encore beaucoup d'espace à s'approprier. Donc il y a les contraintes techniques. Paris, par exemple, c'est vraiment difficile. Après, il y a le rapport à l'espace public, des fois à l'espace privé aussi. À l'espace privé, et on a encore aussi les contraintes qu'ont parfois les gens à ouvrir leurs portes. À un moment donné, par le passé, moi je vous rappelle quand j'étais en région parisienne, il y avait facilement le baloge du quartier qui revenait de façon mensuelle. Et là, on voit que c'est plus difficile, hein, où il y a un repliement sur soi, hein, dû aussi aux outils que sont la télévision et Internet. Donc, on a réouvrir ça. Et parfois, il y a aussi un blocage dans la tête des gens, et donc de se réapproprier ce qui était et ce qui doit faire partie de l'univers commun.
C'est plus facile de jouer dans les campagnes, dans les régions, que dans les grandes villes?
Après, il y a des blocages d'ordre technique, et puis il y a des blocages parfois dans la tête, donc c'est pour ça qu'il faut avancer sur les deux à la fois.
Vas-y. J'avais une petite question quand même, parce que c'est un peu vague dans ma tête, peut-être dans celle des auditeurs aussi. Le comité de pilotage dont tu as parlé tout à l'heure, donc qui finalement a eu 3 années pour réfléchir sur lui. Comment ça s'est passé concrètement? Ils sont allés voir ces membres de ce comité de pilotage, des spectacles, ils ont été à des festivals, ils ont discuté. Comment ça s'est passé concrètement?
Non, le comité de pilotage a été nommé par le ministre de la Culture avec une représentativité un peu de tous les gens qui sont intéressés par les arts de la rue. Et il est vrai que ça a été plus des réflexions, des commissions. Alors il y a eu un certain nombre de préconisations qui ont été données. Par exemple, avant on avait des lieux de fabrique. C'est-à-dire que les artistes, quand on fait, on a besoin de lieux pour fabriquer. Travailler le bois, travailler les costumes, travailler le fer, il faut des lieux pour ça. Et ça, tous les artistes n'ont pas la possibilité d'avoir un espace. Donc on était sur des lieux de fabrique, qui sont nés à peu près dans les années 90. Alors maintenant, il y a 9 lieux qui vont devenir des centres nationaux des arts de la rue. Donc possibilité, donc un budget de 150 000 euros supplémentaires et possibilité pour les artistes d'aller dans ces 9 centres nationaux des arts de la rue. Il y a eu également une aide à l'écriture. Une aide à l'écriture en collaboration avec la SACD pour aider les artistes à émettre leur projet. Donc au départ, c'est vrai que c'était un peu privé, puisque c'était un certain nombre de commissions et de propositions qui ont été faites au ministère. Et c'est pour ça que Rue Libre, on l'a voulu l'ouvrir, que ce soit plus large au niveau de la population et y compris des élus des collectivités. Alors même si pendant son temps dans les arts de la rue a été un levier, par exemple, il y a eu la constitution de troupes éphémères, c'est-à-dire des artistes, des techniciens, des administrateurs se sont réunis pour expliquer ce que sont les arts de la rue au niveau des esthétiques, des contraintes techniques de sécurité. Ils sont, par exemple, je prends l'exemple de la région parisienne où ils ont été dans chaque, également en Bretagne, également en Normandie, où ils ont été dans chaque département et ils ont invité les responsables culturels et les élus à expliquer un peu leur démarche. Donc ces 3 ans ont permis quand même un certain nombre de créer les circonstances de la discussion et de pédagogie d'expliquer ce que nous sommes.
Il y a eu une vraie concertation entre donc ce comité de pilotage et des structures d'art de la rue. Vous ont rencontré beaucoup de monde ou...
Oui, alors après, il y a encore beaucoup à faire. C'est que le début, c'est les prémices. J'espère qu'après ces 3 ans-là, après la journée du 27, ça va prendre plus d'ampleur. Mmh. Mais c'est comme un anniversaire. C'est peut-être ringard, un anniversaire, mais ça permet aux gens de se rencontrer. Donc il faut des anniversaires pour que les gens se rencontrent.
Donc c'est un peu une journée presque bilan de vos 3 ans de travail, finalement, le Rue Libre.
Alors bilan et perspective, voilà.
Voilà.
On est dans cet esprit-là, quoi, sur bilan et perspective. C'est pas pour nous la clôture. Au contraire, ça doit repartir. C'est quoi les orientations? Il faut que chacun s'approprie, qu'on fasse le plan. Alors il y a plein de bilans à faire au niveau, que ce soit au niveau des collectivités, des départements, des régions, pour pouvoir encore avancer. C'est vrai qu'on parlait d'argent des 10 millions d'euros. C'est pas suffisant. On a encore à expliquer la pédagogie sur les esthétiques. Dans un milieu enseignant, les arts de la rue, on a encore une image du cracheur de feu
chassiers,
et puis de l'échassier, alors que il y a les esthétiques et puis la relation au beau et au magnifique qui s'est diversifiée, qui est beaucoup plus large qu'elle n'était il y a 40 ans.
Donc les perspectives pour les 3 ans à venir, parce que vous fonctionnez de 3 ans en 3 ans, on peut dire ça va être...
Ouais, quand on veut grandir, on veut grandir à vie. Si on aime un peu la vie, on veut aller le plus longtemps possible. On existe depuis 2500 ans, donc on peut encore continuer autant, quoi.